L'Europe, quel équilibre trouver entre innovation et régulation? On en parle avec nos deux invités.
Les dessous de l'Infox avec Paul Lonsin-Spinelli, vendredi à partir de 17h30 TU sur RFI.
RFI Radio France Internationale, 6h30 à Dakar et en temps universel, 7h30 à Paris. Le Sénégal à la une de votre journal, Édouard Dupénoit, des sanctions prises dans la hiérarchie policière.
Et annoncées par le ministère de l'Intérieur, nous sommes 10 jours après les troubles sur le campus de l'université Cheikh Diop à Dakar. Ce sont des cadres des forces de l'ordre qui sont sanctionnés sans lien direct avec la mort du jeune Abdoulaye Ba. À Fadangourma, une attaque mortelle samedi dernier, 60 morts au moins dans l'est du Burkina Faso. Pas de revendication à l'heure actuelle. Dans ce journal encore, un accident minier dans les du plateau au Nigeria, le brutal embrasement d'une fuite de gaz sur un site d'extraction de plomb. Un lanceur d'alerte sous les verrous en Côte d'Ivoire, Jean-Christian Conan, infatigable défenseur de la lagune Ébrié qui borde Abidjan, il est sous mandat de dépôt. Un ressortissant russe aussi accusé d'avoir filmé discrètement ses relations sexuelles avec des Ghanéennes et d'avoir mis tout cela en ligne.
Tandis que le dossier de cette édition nous emmène à Berlin pour le festival de cinéma.
Où les décennies de guerre qui meurtrissent l'est de la République démocratique du Congo s'affiche en grand format.
C'est au travers ces caméras que j'arrive à amplifier cette voix, la voix de ma génération, de mon peuple qui n'a jamais connu la paix et qui espère avoir la paix.
Le documentariste Élisée Sawa-Sawa à notre micro dans une dizaine de minutes.
Le ministre de l'Intérieur du Sénégal annonce des sanctions contre des cadres de la police nationale.
Oui, des responsables de l'encadrement des forces de l'ordre. 10 jours donc, après les violences qui ont touché le campus de l'université Cheikh Diop sur fond de colère contre les bourses impayées. Ces sanctions ne sont pas directement liées à la mort d'Abdoulaye Ba. Pour rappel, le procureur estime que ce jeune étudiant est mort en tombant du 4e étage de sa résidence. Elles sont liées, en revanche, à la violence de la répression policière lors de ces protestations. Largement documentée d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Birahim Touré.
Ces mesures conservatoires interviennent 10 jours après la journée de manifestation à l'université Cheikh Diop de Dakar. Les policiers concernés sont des responsables qui ont encadré les forces de l'ordre. Le commandant de la compagnie d'intervention, le chef du groupement opérationnel de Dakar, le commissaire de la commune de Pointe-E, dont dépend l'université Cheikh Diop, ainsi que le commandant du groupement mobile d'intervention de Thiès. Tous ont été relevés de leurs fonctions en attendant la fin des enquêtes. Selon une source au sein de la police, ils sont mis à la disposition des enquêteurs pour déterminer leur rôle dans les violences du 9 février. La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur avait prévenu « Personne ne sera protégé » afin de faire la lumière sur ces événements. De leur côté, les responsables étudiants en garde à vue depuis une semaine ont pu bénéficier ce mercredi d'une libération sous contrôle judiciaire. Ils sont poursuivis pour, entre autres, dégradation de biens publics, manœuvre à compromettre la sécurité publique et détention illégale d'armes et de munitions. Birahim Touré, Dakar. RFI.
Une nouvelle attaque sanglante dans la zone de Fadangourma, dans l'est du Burkina Faso. Elle s'est déroulée samedi dernier. Entre 60 et 70 personnes auraient été tuées. C'est une base des unités combattantes des agents forestiers qui a été prise pour cible. Quoique le groupe dit de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, soit actif dans cette zone, l'attaque n'a pas été revendiquée. Willy Diallo.
Les agents forestiers ont été pris au piège dans les tranchées censées les protéger en cas d'assaut de groupes terroristes. Selon nos informations, les soldats avaient été informés d'une attaque imminente prévue pour le 14 février. Ils ont alors demandé des renforts au bataillon d'intervention rapide le plus proche, le BIR 12. Une source militaire précise que le bataillon a bien confirmé l'envoi de soldats. Selon des témoignages, en voyant les combattants arriver à moto, l'unité de soldats forestiers a d'abord cru qu'il s'agissait des renforts, mais non. Les djihadistes ont alors attaqué la base qui a été totalement détruite. Parmi les victimes, on retrouve des civils, des habitants du village, qui ont croisé le chemin des groupes terroristes avant l'attaque. Pour l'instant, aucun bilan officiel n'a été établi. À Fadangourma, des témoins affirment que la morgue et l'hôpital sont débordés alors que des cadavres et des blessés continuent à affluer. D'autres éléments de la force d'élite manquent toujours à l'appel. Sur place, une source sécuritaire évoque des images insoutenables. Des dizaines de corps ont été inhumés et les survivants ont regagné la ville de Fadangourma.
Willy Diallo, j'ajoute que les autorités de transition n'ont pas fait connaître de réaction encore après cette attaque.
Le ministère de l'Environnement du Nigeria ouvre une enquête, Edouard, après un accident dans une mine.
Oui, hier matin dans la zone de Kampaninzorak, c'est dans l'état du Plateau, dans le centre du pays. Il semble qu'une fuite de gaz se soit embrasée. 38 personnes au moins sont mortes, 27 autres blessées. On parle là d'une mine d'extraction de plomb dans une zone où les puits sont de moins en moins nombreux. Harmonie Pandignaga.
Les gens se trouvaient à l'intérieur des puits de mine et soudain, un gaz a explosé, relate à l'AFP Ibrahim Dadjosani. Il était entre 7h30 et 8h mercredi matin lorsqu'il est arrivé sur place après avoir entendu l'explosion depuis un site voisin. Une trentaine de travailleurs, des hommes âgés de 20 à 35 ans, se trouvaient dans ces tunnels souterrains, profonds et souvent mal ventilés. Plusieurs d'entre eux ont perdu la vie, précise un communiqué du gouvernement local, sans donner de bilan exact mercredi soir. Selon un rapport sécuritaire confidentiel consulté par l'AFP, les décès sont dus à une intoxication au monoxyde de carbone. Les accidents mortels sont fréquents dans cette région qui constitue le cœur historique de la production minière du pays. En fort déclin depuis quelques années, elle se réduit à quelques mines, souvent artisanales, sans permis. Pour éclaircir les circonstances de la catastrophe sur ce site, exploité légalement par la société nigériane Solid Unit Nigeria, le ministre de l'Environnement a diligenté une enquête. En attendant, toutes les activités minières dans la zone de la mine de Kampaninzorak sont suspendues. Harmonie Pondinaga, Lagos, RFI.
Jean-Christian Conan a été placé sous mandat de dépôt. Nous sommes en Côte d'Ivoire maintenant pour la suite de ce journal. Avec les ennuis judiciaires de ce lanceur d'alerte, défenseur de l'environnement, particulièrement de la lagune Ébrier. Il a été interpellé en début de semaine par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, déféré hier au parquet d'Abidjan, qui a ouvert une information judiciaire, et désormais donc incarcéré au pôle pénitentiaire de la capitale économique. Abdoulaziz Diallo, que sait-on de ce qui lui est reproché ?
Jean-Christian Conan est poursuivi pour 7 chefs d'accusation, notamment diffamation, incitation à la haine et trouble à l'ordre public. Joint par RFI, son avocat évoque, je cite, un dossier vide sans davantage de commentaires à ce stade. Plusieurs plaintes ont été déposées contre le lanceur d'alerte depuis juin 2024 par des personnes physiques et morales. Les deux plus récentes remontent à la fin du mois de janvier, après ses publications sur les nouveaux remblais sur la lagune Ébrier et leurs possibles conséquences environnementales et sociales. Sur ses réseaux sociaux, Jean-Christian Conan affirme qu'un remblai illégal serait en cours à Mputo, dans la commune de Cocody, une zone qu'il présente comme relevant du domaine public lagunaire. Il dénonce également la construction de ce qu'il qualifie de « mur de la honte » qui sépare la lagune du village, empêchant les habitants de la voir. Autre volet évoqué par une source proche du dossier, une affaire présumée d'escroquerie liée à une transaction immobilière portant sur plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Début 2025, le lanceur d'alerte avait également attiré l'attention sur le navire Zimrida qui avait fini par accoster à Abidjan avec à son bord 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium. Abdelaziz Diallo, Abidjan. RFI.
Une nouvelle mise en garde qui ressemble à un nouveau revirement de Donald Trump, président américain, sur les Chagos. C'est un message, tout en lettres majuscules, qu'il a publié sur son réseau social Truth, où il appelle Londres, je cite, à ne pas céder Diego Garcia. Il semble que le président américain s'inquiète en fait de la nature du bail locatif par lequel la base militaire de Diego va rester sous pavillon anglo-américain pour un siècle, alors que le Royaume-Uni est en passe de restituer l'archipel des Chagos à l'île Maurice, sauf donc cette base militaire. On apprenait hier que le département d'État américain comptait ouvrir des négociations la semaine prochaine avec Port-Louis sur l'avenir de cette base militaire.
Une affaire de vidéos intimes filmées et diffusées sans le consentement des femmes et la diplomatie qui s'en mêle entre le Ghana et la Russie.
Puisque l'ambassadeur de Russie à Accra a été convoqué avant-hier et cela parce qu'une enquête a été ouverte contre un ressortissant russe. Il aurait donc filmé ses relations sexuelles avec des femmes ghanéennes sans rien leur dire, avant de diffuser ces vidéos sur Internet, ici encore, sans aucune forme de consentement. Victor Cariou est notre correspondant sur place.
Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect, un ressortissant russe âgé de 36 ans, serait venu au Ghana pour filmer ses relations sexuelles avec des femmes ghanéennes à leur insu, avant de monétiser ses vidéos via des plateformes en ligne. Un comportement qualifié par le ministère ghanéen des Affaires étrangères d'atroce et qui viole clairement la loi ghanéenne. Dans un communiqué, il précise avoir convoqué l'ambassadeur de Russie pour, je cite, « solliciter la coopération de Moscou afin que justice soit rendue ». La réponse de l'ambassadeur russe, elle, a été communiquée le lendemain. Si Moscou assure de sa coopération continue avec Accra, il précise qu'il n'existe pas de traité d'extradition entre les deux pays. Ce mercredi 18 février, les autorités ghanéennes ont néanmoins indiqué avoir entamé des discussions avec Interpol. À ce jour, ni le nombre des potentielles victimes du suspect, ni les détails de son séjour au Ghana n'ont été communiqués par les autorités. Victor Cariou, Accra RFI.
Ce ressortissant russe est également visé par une enquête au Kenya pour des faits similaires. À propos de la Russie, encore, c'est à Moscou qu'a été accueilli hier le président dit de la refondation de Madagascar, le colonel Mikhail Randjanirin. Invité par Vladimir Poutine, il a été accueilli par le vice-ministre des Affaires étrangères. Depuis sa prise de pouvoir il y a 4 mois, le dirigeant opère un franc rapprochement avec la Russie. Il revendique une diplomatie, je cite, pragmatique et non aligné.
Il y a plus de 6000 kilomètres entre Goma et Berlin, l'est de la République démocratique du Congo, se ferait un chemin jusqu'en Allemagne.
Et c'est le dossier de cette édition qui nous emmène au Festival international du film de Berlin. 3 films tournés sur le continent africain sont en compétition pour l'Ours d'Or cette année. Dans la section Panorama, notre envoyé spécial a pu assister à la projection de Trop, c'est trop, documentaire du réalisateur congolais Élisée Sawasawa, qui apporte les provinces de l'Est, les Kivu, l'Ituri, en plein cœur de la capitale allemande.
Élisée Sawasawa est née il y a 32 ans dans la guerre. Sa mère a accouché dans la forêt en fuyant son village et la famille s'est installée à Goma. C'est là que le réalisateur a filmé la prise de la ville par le M23 en janvier 2025 et décidé d'en faire un film avec des séquences tournées depuis 2022 dans des camps de réfugiés.
Je fais un film sur cette situation. Les gens qui espèrent la paix, même s'ils n'ont jamais connu, une société qui crie trop, c'est trop. Et c'est la responsabilité que j'ai maintenant de faire connaître ces territoires, que les gens puissent découvrir ce que nous traversons. Quand on projetait même le film à Berlin, il y avait beaucoup de gens qui étaient étonnés. Ils se disaient, moi je ne connaissais pas s'il y a quelque part dans le monde où les gens souffrent comme ça. C'est au travers ces caméras que j'arrive à amplifier cette voix, la voix de ma génération, de mon peuple qui n'a jamais connu la paix et qui espère avoir la paix.
Qu'il n'y a pas de Congo sans Beni, Bunia, Butembo, Bunagana, Ituri, Rutshuru.
Élisée Sawasawa filme l'extrême précarité des réfugiés de l'Est de la RDC, leur désespoir, leur exaspération et leur colère qui s'expriment contre les soldats de la MONUSCO ou le Rwanda. Mais il montre aussi les modes d'expression de ses amis artistes et les demandes d'une solution pacifique pour pouvoir enfin vivre sereinement dans cette région convoitée pour ses richesses.
On ne demande pas l'impossible, on réclame juste la dignité. On n'a pas les armes. Mais on a le mot.
Voilà pour Trop, c'est trop, documentaire du réalisateur congolais Élisée Sawasawa. Mais toutes les sections du festival font en fait la part belle aux productions africaines. En lice, par exemple, pour l'Ours d'Or du court-métrage, Les âmes du Fouta, réalisé par Alpha Diallo. L'histoire d'une mère qui se bat pour offrir des obsèques à son fils emporté par une overdose.
On est dans un village à une trentaine de kilomètres de Podor, dans le nord du Sénégal, environ à 700-750 kilomètres de Dakar. Donc c'est un territoire majoritairement peul, où les gens travaillent beaucoup la terre, l'agriculture. Déjà, je suis très content d'avoir réussi à faire ce film-là en langue peul, dans un village juste à proximité du village de ma terre d'origine, de mes ancêtres.
Il y a une énergie au Sénégal, l'envie de développer des projets.
Oui, bien sûr. On le voit aussi à travers tous les films qui sont passés par les grands festivals, que ce soit Mati Diop, Ramatoulaïsi, avec Banaël et Adama. L'engouement, il est là, il y a les moyens aussi, et surtout qu'au Sénégal, on a la chance d'être hyper bien accompagné par des structures solides. Donc hyper fier aussi de voir le Sénégal dans un festival aussi rayonnant que la Berlinale.
Alpha Diallo qui réalise Les âmes du Fouta en lice pour l'Ours d'Or du court-métrage. Un dossier réalisé par notre envoyé spécial au Festival du film de Berlin, Sophie Torlotin, se festival qui dure jusqu'au 22 février. Quelques lignes de football. Vous le suiviez peut-être hier soir, l'arrivée officielle est confirmée d'Habib Bey comme entraîneur de l'Olympique de Marseille. Arrivée ou plutôt retour, puisque l'ancien défenseur sénégalais retrouve cet Olympique marseillais, où il a évolué il y a de cela une vingtaine d'années. Toute l'actualité des sports de retour dans une heure avec Antoine Grenier.
Merci Edouard Dupénoit. C'était l'information africaine sur RFI. 7h44, on part tout de suite à Libreville. Pour notre revue de presse. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, les réseaux sociaux suspendus au Gabon.
Oui, décision radicale des autorités gabonaises. La HAC, la haute autorité de la communication du pays, a annoncé avant-hier la suspension immédiate des réseaux sociaux sur le territoire gabonais jusqu'à nouvel ordre. C'est ce que pointe notamment le Monde Afrique. Sans désigner les plateformes concernées, la haute autorité a justifié cette décision par la présence de contenus risquant d'engendrer des conflits sociaux, de déstabiliser les institutions de la République et de mettre gravement en péril l'unité nationale, les avancées et les acquis démocratiques. Le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biaoudjo, justifie cette décision dans les colonnes de l'Union à Libreville. C'est une démarche, dit-il, de préservation de l'ordre public, du vivre ensemble, de paix et de préservation de l'amour entre les Gabonais. Cette mesure exceptionnelle n'est pas une remise en cause de la liberté d'expression dans notre pays, poursuit-il. Le gouvernement s'engage à conduire une réforme en profondeur visant à réorganiser et à sécuriser l'écosystème national de communication numérique, tant sur les plans juridiques qu'opérationnels.
Pour sa part, l'opposition s'insurge.
Le PDG, le Parti démocratique gabonais, dit sa stupeur et son indignation et affirme que sanctionner des millions d'utilisateurs innocents pour les agissements supposés de quelques-uns constitue une sanction collective, étrangère à tout état de droit. Des propos rapportés par le site Gabon Actu. Sur ce même site, indignation aussi pour le FDR, le Forum pour la Défense de la République, pourtant plutôt proche du pouvoir. Le FDR qui qualifie cette mesure d'arbitraire et de disproportionnée et qui porte une atteinte directe aux droits fondamentaux des Gabonais.
De son côté, le site Gabon Review prévient ce blackout sur les réseaux sociaux va entraîner des dégâts économiques et politiques.
On réduit trop facilement les réseaux sociaux à un simple vacarme numérique. C'est une erreur d'analyse, s'exclame Gabon Review. Ils sont devenus une infrastructure économique parallèle. Boutique Instagram, commande WhatsApp, prospection Facebook, publicité sponsorisée, une part croissante du commerce urbain vit, respire et encaisse grâce à ces canaux sur Internet. Couper les réseaux, ce n'est pas faire taire des commentaires, c'est couper des sources de revenus. Sur le plan politique, reconnaît Gabon Review, il est vrai que depuis la transition, une partie de l'activisme numérique, souvent animé depuis la diaspora, a effectivement durci le ton, multipliant attaques personnelles et propos diffamatoires contre le chef de l'État et les institutions, c'est un fait, mais s'interroge le site gabonais, une dérive ciblée appelle-t-elle une réponse globale? Des mécanismes existent, retrait de contenu illicite, suspension de comptes récidivistes, décisions judiciaires individualisées, choisir l'interruption générale, c'est privilégier la masse à la précision. Bref, résume Gabon Review, en actionnant l'interrupteur général, la HAC ne suspend pas seulement des plateformes, elle touche l'économie digitale et ouvre un débat aux enjeux économiques, juridiques, politiques et internationaux. Fallait-il éteindre toute la ville pour étouffer quelques incendies?
Ne coupez pas, mon général, régulez, renchérit Wakat Serra au Burkina Faso.
Et oui, en effet, précise le pays, autre quotidien burkinabé, dans bien des états, des textes existent pour punir ceux sur la toile qui se mettent en porte-à-faux avec la loi. Pourquoi alors ne pas se focaliser sur cette solution plutôt que de faire le choix de la suspension pour tout le monde? En suspendant les réseaux sociaux, le président Oligui a voulu casser le thermomètre. Pour autant, pourra-t-il faire baisser la fièvre?
En fait, souligne Afrique.com, le problème n'est pas tant le diagnostic, les dérives des réseaux sociaux sont réelles et documentées, que la thérapeutique choisie.
Oui, des outils existent, affirme également Afrique.com, tels que le retrait de contenus illicites, la suspension de comptes récidivistes, les injonctions judiciaires, qui permettent de traiter les abus sans éteindre tout l'espace numérique. Ce que cette crise révèle en définitive, c'est une urgence bien réelle, relève encore Afrique.com, celle de construire des cadres de gouvernance numérique adaptés au contexte locaux, capables de protéger les citoyens contre les dérives avérées des grandes plateformes, sans pour autant couper le lien qui unit désormais les peuples à l'information, à l'économie et entre eux. Le Gabon n'est pas le premier pays à se trouver face à ce défi. Il ne sera pas le dernier.
Frédéric, vous revenez dans une demi-heure pour nous lire la presse internationale et nous parler du Conseil de la paix de Trump.
Avec la première réunion de ses membres ce jeudi à Washington, et la presse, nous le verrons, s'interroge, un Conseil de la paix, pourquoi faire?
Et on en reparlera en longueur aussi dans le journal de 8h. Merci à vous. Voilà cette suspension des réseaux sociaux au Gabon, on en parlait, qui fait suite donc à une décision annoncée il y a un peu plus de 24 heures par la HAC, la haute autorité de la communication, pointant la HAC, ces plateformes pour atteinte à la cohésion sociale, à la stabilité des institutions de la République et à la sécurité nationale. Le porte-parole de la présidence gabonaise est notre grand invité Afrique ce matin. Il tente de nous expliquer cette décision. Théophane Zamézé, Biogé. Biogué, il répond à Sidi Yonsané.
Bonjour Théophane Zamézé Biogué.
Bonjour.
Alors, on va commencer par cette annonce surprise, la suspension immédiate des réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que vous pouvez nous dire précisément ce qui pousse la HAC à prendre une mesure qu'on peut qualifier quand même de radicale ?
Alors, je pense que cette mesure s'inscrit dans le prolongement d'une réflexion qui est vieille de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, sur l'usage général qui est fait des réseaux sociaux. Ce n'est pas une sanction, c'est simplement un signal fort qui est envoyé pour poser ce débat et éventuellement envisager d'autres étapes comme le fait de légiférer pour redéfinir l'usage des réseaux sociaux, un usage qui ne doit pas compromettre l'œuvre perpétuelle de raffermissement du vivre ensemble.
Et malgré tout, les arguments avancés par la HAC sont quand même très généraux. On parle de déstabiliser les institutions de la République, de mettre en péril gravement l'unité nationale. C'est une annonce sans préavis. Et quels sont les éléments dont dispose la HAC pour dire que le pays quasiment serait en danger à cause des seuls réseaux sociaux?
Alors je ne sais pas si ce n'est pas un peu simplifier les choses que de dire que la HAC dit que le pays est en danger à cause des réseaux sociaux, mais en tout cas les réseaux sociaux sont aujourd'hui un terrain qui permet de structurer un certain nombre de facteurs potentiellement déstabilisants.
Lesquels par exemple dans le cas
pour ce qui est de la désinformation, il y a parfois beaucoup d'informations ou de désinformations. Il est question aujourd'hui de s'intéresser à la question pour réguler davantage et faire en sorte que les réseaux sociaux permettent un débat beaucoup plus constructif, mais un débat qui ne vise pas à nuire à l'intérêt supérieur que nous avons à préserver un minimum de cohésion sociale à notre niveau.
Alors le sommet de l'Union africaine s'est tenu ce week-end à Addis Abeba. Le président de la commission, Mahmoud Ali Youssouf, a déclaré qu'il n'y aura aucune tolérance pour les changements de pouvoir anticonstitutionnels. Que répondez-vous notamment à l'Angolais João Lourenço, un président sortant en exercice du LUA qui allait plus loin et qui déplore le blanchiment des coups d'État grâce à des élections?
Je pense que les constitutions sont d'abord faites pour servir l'intérêt des peuples. Les Gabonais n'en pouvaient plus de l'ancien régime. Ils n'en pouvaient plus. Le cadre législatif, le cadre constitutionnel ne peut pas servir de prétexte à l'amenuisement des libertés des gens. L'intérêt du peuple, en tout et pour tout, doit primer. Et la situation était intenable au Gabon. Il y a donc eu ce coup de libération le 30 août dernier. Il ne s'agit pas de blanchir quoi que ce soit. Il s'agit simplement de dire que lorsque les textes servent à brider les populations, il y a nécessité à employer des voix qui ne sont pas forcément consacrées dans les textes, mais qui sont des voix qui finissent par être salutaires pour les peuples.
Alors le chef de l'État, Brice Oligui Nguema, s'est félicité il y a quelques jours du retour des enseignants dans les salles de classe, parce qu'il y a une grève qui perdure malgré tout depuis bientôt 2 mois, si je ne dis pas de bêtises. Où en sont les négociations concernant les revendications des enseignants ?
Bah, écoutez, les négociations se sont menées sur plusieurs semaines, dans un cadre qui a été activé très rapidement. Il y a eu une commission tripartite qui a été déployée pour encadrer ces négociations. Les négociations ont débouché sur l'adoption d'un certain nombre de points. Au terme de cela, une échéance a été fixée, celle du 25 février prochain, donc la semaine prochaine, pour lesquelles donc, l'État devra procéder à la régularisation des 4000 situations administratives retenues pour le secteur de l'éducation, avec les effets soldes qui sont donc inhérents à cela.
Le FMI annonce une visite au Gabon la semaine prochaine, dans un contexte d'explosion de la dette et du déficit au Gabon et aussi dans la zone CEMAC. Et hier, chez nos collègues de France 24, vous précisiez d'ores et déjà qu'il n'y aura pas de politique d'austérité au Gabon.
Il ne s'agit pas pour le FMI de modifier les priorités de la politique économique. Mais il s'agit de définir la meilleure méthodologie d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Donc le projet est le même. Il est question de mettre à contribution le FMI pour apporter davantage de transparence dans la gestion des données publiques, renforcer la gouvernance et envisager des lendemains meilleurs et notamment aussi avoir beaucoup plus de facilité pour aller quérir des financements auprès d'autres bailleurs de fonds, puisque dans la stratégie d'endettement du Gabon, il y a un privilège qui est accordé aux partenaires multilatéraux pour nous prémunir des risques de fluctuation de taux, mais en aucun cas il n'y a de projet d'ajustement structurel comme ça a pu être le cas par le passé. Il n'y a pas d'austérité en vue, pas du tout. La politique sociale du président de la République sera exécutée.
Théophane Zamézé Biogué, merci beaucoup d'être venu nous voir à RFI.
Merci de m'avoir reçu.
Le porte-parole de la présidence gabonaise, grand invité Afrique d'RFI, un entretien avec Sidi Yonsané, à retrouver en version longue et en vidéo sur notre notre site internet rfi.fr. Et puis tout à l'heure, à 9h10, appel sur l'actualité sur RFI, Juan Gomez. Et toute l'équipe de l'émission vous attend. Le débat justement consacré aujourd'hui au sujet de la régulation des réseaux sociaux. Comment réguler sans censurer? Vous nous appelez au 33 9 693 693 70. Vous pouvez aussi nous écrire sur le groupe WhatsApp de l'émission.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Le Conseil de la paix de Donald Trump tient aujourd'hui sa première réunion à Washington. Son rôle, aider à la mise en œuvre du plan de paix américain pour Gaza et plus largement à la résolution des conflits dans le monde. Emmanuel Macron, président français, et d'autres chefs d'État comme Lula sont eux à New Delhi aujourd'hui, où se tient le sommet mondial sur l'intelligence artificielle. L'actualité de ce jeudi, c'est aussi la Corée du Sud. On vient de l'apprendre, l'ex-président de Corée du Sud, Yoon Sekyol, jugé coupable d'avoir dirigé une insurrection. On y revient dans le prochain journal. Les États-Unis pressent l'Iran. Le régime de Téhéran serait, je cite la porte-parole de la Maison-Blanche, bien avisé de conclure un accord, estimant, je cite encore, qu'il y avait de nombreuses raisons de le frapper. Et puis Total Energy devant le tribunal judiciaire de Paris à partir d'aujourd'hui, accusé par un collectif d'ONG et de collectivités, dont la ville de Paris, de contribuer au changement climatique et de ne pas faire assez d'efforts pour limiter son impact. Maman, on vous retrouve comme chaque jour pour votre carte postale du Gondwana aujourd'hui. Maman, vous nous dites que les étudiants de la très très démocratique République aimeraient bien manger à la cantine universitaire.
Oui, à un très très démocratique République, on dit tous les jours que l'éducation est une priorité nationale. La devise de tous les gouvernements, de présidents fondateurs est et restera l'école avant tout. Mais quand tu fais un tour à l'UGC, Université de Gondwana City, notre belle capitale, tu révises ce jugement parce que tu te rends compte qu'ici, sur le campus, les étudiants gondouanais ne révisent pas seulement leurs cours, ils révisent aussi leurs illusions et toujours à la baisse. Ils sont venus à la fac pour devenir les bâtisseurs de demain, ingénieurs, médecins, avocats, juristes, serviteurs de l'État, etc. Mais au bout de quelques mois, ils se rendent compte que l'anguille et la roche ont disparu, il n'y a plus rien. Oui, normalement à l'université, on se bat pour avoir une bonne place dans l'amphi, pour bien suivre les cours, on se bat ensuite pour bien potasser ses cours et avoir une bonne note aux examens et décrocher ses diplômes. Mais ici à l'Université de Gondwana City, notre belle capitale, les étudiants se battent d'abord pour pouvoir se payer un ticket pour la cantine universitaire, un ticket pour manger, quoi. Le problème est que leur bourse d'études, cette petite somme censée nourrir le cerveau et le ventre, acheter des livres, payer le bus et la chambre au campus, eh ben, ce petit pécule arrive mais quand il veut, c'est-à-dire de temps en temps, comme la pluie dans le Sahara. Quand les étudiants se plaignent, eh ben le ministre leur dit que c'est un stage pour les habituer à leur future vie de salarié de la fonction publique gondouanaise, cette contrée où les salaires arrivent comme la pluie au fin fond du Sahara. Parce qu'en ce moment, la bourse, ben c'est comme la croissance à deux chiffres. Hein. Tout le monde en parle, mais personne ne l'a vu depuis des années. Résultat, nos brillants étudiants gondouanais ont découvert une nouvelle matière obligatoire dans leur cursus universitaire, la nutrition imaginative et aléatoire. Chapitre 1, comment tenir toute une journée avec un sachet d'eau et un chewing-gum déjà mâché pour blaguer la faim. Chapitre 2, comment transformer l'odeur de la cantine en repas complet. Ça s'appelle manger par l'intelligence artificielle. Oui, parce qu'il y a une cantine sur le campus, mais sans bourse, mon ami, tu peux même pas t'asseoir pour regarder le riz dans les assiettes de tes camarades. L'entrée est interdite aux estomacs sans fond. Alors forcément, un jour, les étudiants ont dit trop c'est trop, d'autant plus que le ramadan avançait à grands pas, donc ils ont refusé de faire Ramadan avant Ramadan et décider de manifester. Mais en très très démocratique république, quand tu prononces le mot manif, le gouvernement entend danger et il n'aime pas ça. Et quand le président fondateur n'aime pas quelque chose, ben il envoie sergent s'en fout la mort des autres et ses collègues de la brigade lacrymo, coup de matraque et rangers. Tu imagines ça? Sergent s'en fout la mort à la fac. Dans quelle filière va-t-il s'inscrire? Licence professionnelle en répression appliquée ou bien utilité pédagogique de la matraque, polyvalente, ergonomique et télescopique et court, ouvert à tous les niveaux. On verra ça la semaine prochaine. Allez, à lundi.
À lundi, maman, à suivre le journal et à la une, le Conseil de la paix de Donald Trump. Bientôt 8h à Paris.
tout à l'heure sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
La protection des forêts tropicales est cruciale pour le climat et la biodiversité. Ces forêts ont été l'objet de vives discussions entre les scientifiques brésiliens, français et africains sur la caravane Yarassou qui a remonté l'Amazone jusqu'à Belém.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI. Ce samedi sur RFI, Éco d'ici, Éco d'ailleurs, Bruno Faure.
Face aux économies américaines et chinoises, l'Europe est en mal de compétitivité. Comment relancer ses industries ? Faut-il nouer des alliances avec de nouveaux partenaires comme l'Inde ou des pays africains ? Instaurer une préférence européenne ? Le débat fait rage entre les 27.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI. Vous avez une idée innovante pour un monde plus propre ?
Un projet numérique qui améliore la gestion et la transformation des déchets, encourage une consommation responsable ou encore préserve les écosystèmes terrestres et marins de la pollution plastique en Afrique francophone ?
Participez à la 10e édition du Challenge App Afrique avec RFI et France 24.
Tentez votre chance et bénéficiez d'une